Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver librement. Il y a tellement de gens qui ne peuvent pas le faire. Quelle grâce! Parce que c'est vrai que notre monde aujourd'hui est le théâtre de nombreux conflits. Bien sûr, il y a cette guerre en Ukraine qui dure déjà depuis plus d'un an maintenant. Mais dans le monde, un peu partout, ça ne va pas très bien, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit un peu partout. Mais les conflits dans le monde, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Ils datent du début de l'humanité. Dès le début, il y a eu des conflits. Dès le début, dès que le péché est entré dans le monde, eh bien, ça a été de travers. C'est déjà Caïn qui a déjà commencé par tuer son frère, et puis ça a continué, et encore aujourd'hui. Et même dans notre pays, qui est un pays en paix, il y a quand même des conflits, il y a quand même des situations conflictuelles, il y a des choses qui ne tournent pas très rond. Et même au sein des familles, il y a des conflits. Et même au sein des couples, il y a des conflits. Malheureusement, parce que derrière toutes ces choses-là, il y a un maître d'œuvre. Un maître d'œuvre que la Bible appelle le prince de ce monde, et Satan. Et lui, il ne prend pas de vacances. Il est très actif. Et puis, il ne manque pas de main-d'œuvre. L'apôtre Paul nous avertit que nous-mêmes, nous sommes en guerre. Mais nous ne devons pas nous tromper de combat, ni nous tromper d'adversaire, parce que nous ne sommes pas en guerre contre des hommes. Mais la guerre, elle est avant tout, le combat, il est avant tout spirituel. Derrière tous les conflits, il y a d'autres conflits qui nous échappent souvent parce qu'ils se passent, ces conflits, dans le monde invisible. Et Paul nous invite à nous équiper pour que nous soyons capables de résister lorsque nous sommes confrontés à ces combats, à ces difficultés. Il nous en parle dans sa lettre aux Éphésiens, dans un texte qui est bien connu, mais que je vous propose maintenant de lire dans la version Parole de vie, parce que je trouve que ce texte est bien mis à notre portée. C'est peut-être une version qu'on n'a pas trop l'habitude de lire. Et enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse. Prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse, faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint, soyez bien attentifs. et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. » Eh bien, avant d'aller plus loin, je vous propose d'incliner nos têtes. Oui, Seigneur, c'est vrai que nous sommes dans un monde troublé et tu nous invites à nous équiper pour le bon combat. Nous n'avons pas à lutter contre des hommes, mais nous savons que nous avons un adversaire qui cherche à tout prix à nous entraver dans notre marche de tous les jours, à mettre des obstacles sur notre route, à nous détourner de ton chemin. Eh bien, Seigneur, garde-nous vigilants, garde-nous attentifs, garde-nous, comme nous l'avons lu dans ce passage, debout et bien armés, avec un équipement en bon état, pour pouvoir résister à l'ennemi et pour pouvoir être victorieux au travers de tous les combats que nous avons à mener, des combats qui peuvent être tellement différents les uns par rapport aux autres, Seigneur. Pour l'un, ça peut être une maladie, pour l'autre, ça peut être des difficultés dans son travail, pour d'autres, c'est autre chose, Seigneur. Mais dans tous ces combats, que nous puissions être victorieux, parce que bien armés et conscients que ton Saint-Esprit est notre assistant. Alors béni soit ton nom. Amen. J'ai donné pour titre à ce message aujourd'hui « Entretenons notre équipement ». Comme vous le voyez, comme nous l'avons lu là, il y a tout un équipement que nous sommes invités à prendre, à nous revêtir pour ne pas être vulnérables, pour être toujours bien équipés en face de tous les combats que nous avons à livrer. Et pour introduire notre réflexion ce matin, je vous propose de lire un texte dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, pour essayer de voir une application pratique de ce que nous venons de lire. C'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 13, nous lirons les versets 19 à 23, je lis dans la version du Semeur. À cette époque, il n'y avait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient voulu empêcher que les Hébreux fabriquent des épées et des lances. Tous les Israélites devaient donc se rendre chez les Philistins pour faire affûter leurs socs de charrues, leurs pioches, leurs haches, leurs bêches. Lorsque leurs bêches, leurs pioches, leurs tridents et leurs haches étaient émoussés, ainsi que pour redresser leurs aiguillons. C'est pourquoi le jour de la bataille, les hommes qui étaient avec Saül et Jonathan n'avaient ni épée ni lance, seuls Saül et son fils Jonathan en possédaient. Un avant-poste philistin vint prendre position au défilé de Michmash. Alors, pour remettre ce texte dans son contexte, donc le peuple d'Israël avait un ennemi à l'époque qui s'appelait les Philistins. Et cet ennemi donc leur causait bien des désagréments, des misères. Et Saül, le roi de l'époque, le roi d'Israël, avait levé son armée pour combattre les Philistins. Mais il était convenu que Saül devait attendre le prophète Samuel pour offrir un sacrifice à l'Éternel avant d'engager le combat. Et donc, Saül devait attendre Samuel. Et Samuel, eh bien, il s'est fait appeler Désiré. Il a tardé à venir. Il s'est écoulé une semaine et Saül s'est impatienté. Il a eu peur. Il s'est laissé dominer par sa peur plutôt que d'avoir la foi et d'attendre Samuel, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a offert lui-même le sacrifice, alors qu'il n'était pas habilité pour le faire. C'était seulement des sacrificateurs qui pouvaient le faire, des lévites, non seulement des lévites, mais des sacrificateurs qui devaient faire cela. Et donc, il a commis une faute en faisant cela, et il a eu le reproche par Samuel. En quelque sorte, Saül, il n'était pas bien équipé spirituellement. Il a utilisé des armes charnelles. Il s'est laissé dominer par sa peur et il n'a pas été à l'écoute du Saint-Esprit. Et cette attitude, ça reflète aussi l'état d'esprit du peuple d'Israël, ce peuple qui n'avait pas vraiment conscience de la sainteté de Dieu et qui n'avait pas conscience que derrière le conflit humain, il y avait un combat spirituel avant tout. Derrière les ennemis terrestres, il y a un ennemi spirituel qui est Satan. Nous pouvons en tirer un enseignement pour nous aujourd'hui, pour en revenir au texte que nous venons de lire. Nous voyons quand même que c'est une situation assez paradoxale, assez bizarre. C'est qu'il est dit que dans le pays d'Israël, il n'y avait plus de forgerons, parce que les Philistins s'étaient attachés à éliminer tous les forgerons du pays. Et c'est quand même assez étonnant que les gens d'Israël étaient obligés d'aller chez leurs ennemis pour entretenir leurs outils et leur matériel. Et on peut en tirer un enseignement pour nous aujourd'hui en transposant les choses dans le domaine spirituel. Déjà, quel est le bon forgeron, le forgeron qui peut vraiment affûter nos outils spirituellement? Ce forgeron, c'est le Saint-Esprit. Et quand on va dans le monde et que les gens d'aujourd'hui, ils vont dans le monde pour entretenir leur équipement, si j'ose m'exprimer ainsi. Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que la plupart des gens de nos contemporains ne sont pas dans le monde, ne recherchent pas toutes leurs ressources dans le monde plutôt que de s'adresser à celui qui peut vraiment les équiper correctement contre les combats de la vie? Et quand malheureusement, même dans l'Église, le monde fait son entrée et qu'on se conforme aux pratiques du monde, on imite les pratiques du monde et on agit comme on agit dans le monde, eh bien, c'est comme si on allait aiguiser nos outils chez les Philistins. Et c'est finalement, on trouve que l'ennemi, on se plaît chez lui. Cette situation n'est pas désagréable, on ne s'entend pas si mal que ça avec les Philistins. Mais c'est une illusion parce que un jour ou l'autre, il y a un combat à livrer et si les combats de la vie qu'on a à livrer, on n'est pas bien équipé pour le faire, on risque de se trouver démuni, on risque, si on n'a pas bien entretenu notre équipement, si on n'a pas le bon forgeron, d'avoir des soucis. Et c'est ce que vivait humainement Israël. Le verset 22 précise, que le jour de la bataille, les hommes qui étaient avec Saül et Jonathan n'avaient ni épée ni lance. Seul Saül et son fils Jonathan en possédaient. Alors, vous avouerez quand même que affronter un ennemi très puissant sans armes, c'est de la folie. Alors, quel est le forgeron qui peut entretenir correctement notre équipement ? Je vous ai dit tout à l'heure que c'était le Saint-Esprit. Et Paul nous dit dans son épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Alors, je vous lis ça dans une autre version, là. « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Voilà, on est appelé à ne pas imiter le monde, à ne pas nous conformer au monde, mais à nous conformer à ce que nous enseigne la parole de Dieu. Notre pensée a besoin d'être renouvelée par le Saint-Esprit. Mais si nous ne marchons pas par l'Esprit et si nous ne vivons pas selon l'Esprit, nous ne serons pas correctement équipés et armés pour le combat spirituel. Nous avons besoin d'aiguiser notre épée. Nous avons besoin de renouvellement du Saint-Esprit en nous. Il y a tant de gens qui sont chrétiens le dimanche et puis le reste de la semaine, ils vivent exactement comme le monde, en imitant les pratiques du monde. Mais le monde, l'adversaire, les forgerons du monde, ils veulent bien aiguiser nos haches, nos tridents, nos fourches, mais ils ne s'occupent pas de notre épée. Et l'adversaire, il nous endort. Il s'occupe simplement des choses matérielles et il essaie de nous ancrer dans le matérialisme. Notre forgeron divin, lui, il agit différemment. Il prend bien soin de nous, il fourbit nos armes spirituelles, mais il s'occupe aussi des choses matérielles. Et si on laisse le Saint-Esprit diriger nos vies, alors nous n'avons pas à craindre pour aussi les choses matérielles, il va s'occuper de nous. Si nous sommes ancrés dans le matérialisme, pour finir, il n'y a plus ni engagement ni combativité dans l'Église, malheureusement. Alors, ce qui est important dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, il nous est dit que le dernier verset que nous avons lu tout à l'heure, le verset 23, « Un avant-poste philistin vint prendre position au défilé de Micmac. » Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que signifie le mot Micmac. Ça signifie quelque chose de caché. C'est intéressant si on transpose les choses spirituellement. S'il y a un domaine dans nos vies caché, réservé, un domaine où le Seigneur n'a pas trop son entrée, c'est dangereux. Est-ce que dans nos vies, il y a quelque chose de caché ? Il y a un domaine réservé. Est-ce que je cherche à cacher quelque chose au Seigneur ? C'est peine perdue, hein, on ne peut rien lui cacher de toute façon. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de trouble, quelque chose de pas net dans ma vie que je ne veux pas trop qu'il soit connu des autres et de Dieu ? On a beau être à côté de Bethel, parce que Micmac s'est dit que c'était à côté de Bethel, et Bethel, c'est la maison de Dieu. Et on peut être à côté de la maison de Dieu, on peut même être dans la maison de Dieu, si on a un Micmac dans nos vies, c'est dangereux. Alors, c'est important de veiller à ne pas laisser un domaine réservé, un avant-poste vient prendre position au défilé de Micmac. Vous voyez, quand on laisse une brèche, une ouverture, une porte ouverte, eh ben, l'ennemi s'infiltre. Les Philistins viennent prendre position. Et veillons à ce que l'ennemi ne vienne pas prendre position dans nos vies parce que nous avons laissé une brèche. Parce que c'est le risque d'un attiédissement de nos vies. Alors, je ne voudrais pas terminer sur une note négative, mais sur quelque chose de positif. Et je vous propose on ne va pas étudier ce texte, mais simplement de lire un texte. C'est le chapitre suivant du livre de Samuel, où on voit l'exemple de quelqu'un qui était bien armé physiquement et spirituellement et qui savait discerner vraiment ce que Dieu attendait de lui. Il s'agit de Jonathan, le fils du roi Saül. Et nous lisons ce texte. Dans le défilé que Jonathan cherchait à franchir pour atteindre le poste des Philistins, se dressaient de part et d'autre deux pointes rocheuses appelées Botset et Séné. L'une d'elles s'élève au nord en face de Micmac et l'autre au sud en face de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et attaquons le poste de ces incirconcis, peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur, car rien ne l'empêche de sauver par un petit nombre aussi bien que par un grand. » Son serviteur lui répondit, « Fais tout ce que tu as à cœur, allons-y, je suis prêt à te suivre où tu voudras. » Jonathan lui expliqua, « Écoute, nous allons nous faufiler jusqu'à ces hommes, puis nous nous découvrirons brusquement à eux s'ils nous disent « Halte, ne bougez pas jusqu'à ce que nous vous ayons rejoints. Nous resterons sur place et nous ne monterons pas jusqu'à eux, mais s'ils nous disent de monter jusqu'à eux, nous irons. Ce sera pour nous le signe que l'Éternel nous donne la victoire sur eux. » Lorsqu'ils se montrèrent tous deux aux hommes du poste des Philistins, ceux-ci s'écrièrent « Tiens, voici les Hébreux qui sortent des trous où ils s'étaient cachés. » Et s'adressant à Jonathan et au jeune homme qui portait ses armes, ils leur crièrent « Montez jusqu'à nous, nous avons quelque chose à vous apprendre. » Alors Jonathan dit à son serviteur « Suis-moi là-haut, car l'Éternel donne à Israël la victoire sur eux. » Jonathan grimpa en s'aidant des mains et des pieds, et le jeune homme qui portait ses armes le suivait. Ils attaquèrent les Philistins qui tombèrent sous les coups de Jonathan tandis que le jeune homme les achevait derrière lui. Ils massacrèrent ainsi une vingtaine d'hommes sur un espace de quelques mètres carrés. La panique se répandit dans le camp philistin, elle gagna toute la région et toute l'armée. Les avant-postes et la troupe de choc furent terrifiés à leur tour. De plus, la terre se mit à trembler, Dieu lui-même sema la panique parmi eux. C'est extraordinaire, ne vous trouvez pas ça ? Jonathan et son jeune serviteur, son jeune compagnon, son porteur de ses armes, qui ont affronté toute une armée, et ils ont réussi à vaincre, parce qu'ils n'allaient pas avec leurs armes seulement, mais ils avaient mis leur confiance dans le bon forgeron, dans celui qui peut les aider à être victorieux. Jonathan est un personnage bien sympathique. C'était un ami intime du roi David, de David, et son nom signifie, c'est intéressant de savoir ce que signifie le nom de Jonathan, ça signifie « l'Éternel a donné ». Et il est un peu pour nous l'image de Jésus, Jésus que l'Éternel a donné pour le monde. Et nous avons besoin de ce don de Dieu pour nos vies. Si nous sommes comme le serviteur, ce jeune qui suivait Jonathan, nous sommes aussi invités à suivre notre Jonathan, notre Jésus. Et si nous le suivons et que nous portons ses armes comme ce serviteur, eh bien, nous serons aussi victorieux dans tous les combats que nous avons à livrer dans le monde. Et c'est important de faire cette démarche de suivre le seul que nous devons suivre, Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre moyen pour pouvoir obtenir la victoire en toute chose, dans nos combats qui peuvent être de tout ordre. Et si nous tous qui sommes là, nous avons des combats différents, mais nous avons tous un jour ou l'autre des combats à livrer. Alors confions-nous dans notre Jonathan à nous, Jésus, et munissons-nous, portons ses armes, et nous pourrons terrasser l'adversaire, même si il nous paraît beaucoup plus fort que nous, et c'était le cas pour Jonathan, son adversaire, il était beaucoup plus fort en apparence. Mais si nous avons notre Jonathan avec nous, nous sommes du côté du plus fort. Et nous pourrons être victorieux dans tous nos combats. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour Jésus qui s'est offert pour nous et qui nous offre aussi son soutien pour ce forgeron divin qui est le Saint-Esprit aussi, qui veut nous donner un équipement en bon état. Aide-nous, Seigneur, à être des combattants de la foi, à nous munir du bouclier de la foi, comme Jonathan qui a eu, et son jeune serviteur qui ont eu la foi pour affronter l'ennemi. Ils ne sont pas allés seulement avec leurs armes. Ils ont demandé un signe que tu leur as donné et ils se sont engouffrés vraiment sur le chemin que tu leur traçais. Eh bien, oui, Seigneur, que tu nous renouvelles en nous ton Saint-Esprit pour que nous soyons clairvoyants aussi et que nous puissions être victorieux dans tous nos combats. Aide-nous aussi à discerner ta volonté en toutes choses et que nous ne nous conformions pas au monde qui nous entoure, mais que nous allions aiguiser nos armes chez toi. En étudiant ta parole aussi, en cultivant la communion fraternelle, la prière, parce que c'est cela les armes qui nous permettront de résister et d'être victorieux en tout combat que nous aurons à mener. Nous te le demandons au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.